Musicoscope, focus sur la musique contemporaine, les premiers et troisièmes lundis du mois, sur Radio Campus Angers, 103 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Musicoscope, votre émission dédiée à la découverte des trésors de la musique contemporaine. Je suis Camille, votre hôte pour ce moment musical, et pour cet épisode, on quitte un peu les salles de concert sombres et fermées et on part chercher de l'air frais. On parle aujourd'hui de la musique contemporaine en plein air. Comme dans notre précédente émission, nous allons aujourd'hui continuer d'interroger les techniques de composition contemporaine, mais cette fois avec des éléments venus du dehors. Nous parlerons d'abord de l'extérieur qu'on cherche à introduire dans les salles de concert, puis de la réflexion autour des nouveaux lieux et objets du concert, et enfin de la manière de repenser la temporalité et les véritables acteurs de la musique en train de se jouer. Mais plongeons d'abord dans cet univers de la musique contemporaine en plein air en commençant par observer la nature avec un extrait de The Sound of Trees ou Le son des arbres de Camille Pépin. Depuis toujours, le sujet de la nature en musique inspire les compositeurs, qui cherchent souvent à lui rendre hommage ou à l'imiter, des fois très littéralement avec des figuralismes, un procédé musical qui consiste à imiter musicalement une image, comme une mélodie ascendante pour accompagner un texte qui parle d'un lever de soleil, ou des évocations plus poétiques laissées à l'imagination du compositeur et de l'auditeur. On ne saurait pas nécessairement dire ce qui, dans la pièce de Camille Pépin, est de l'ordre de l'écorce, de la racine ou de la lumière dans les feuilles de l'arbre, mais l'image musicale dépeinte, associée à son titre, nous offre un magnifique tableau boisé. Les compositeurs cherchent donc régulièrement à amener la nature et l'extérieur dans les salles de concert. C'est le cas aussi des instruments utilisés et mis en valeur dans les compositions. Nous parlions dans l'émission précédente des instruments inédits dans la musique contemporaine et certains de ces instruments nous viennent parfois directement du monde du dehors. C'est un de ces instruments qu'a décidé de mettre en valeur Tan Dun dans son concerto pour haut. Un concerto, c'est une œuvre qui met en valeur un instrument soliste accompagné par un orchestre et ici, vous avez bien entendu, l'instrument phare est bel et bien l'eau, manipulé par des musiciens. Un extrait tout de suite.
Thank you.
C'est ainsi que la nature a toujours une place de choix dans l'imaginaire de nos compositeurs, qui nous offre, depuis l'obscurité de nos salles de concert, une fenêtre sur le monde extérieur. Dans le concerto pour eau de Tan Dun, l'eau est à la fois utilisée dans de grands bacs transparents arrondis, où on la brasse, on frappe dessus avec les mains ou des objets, mais on l'entend aussi à travers d'un waterphone, un instrument créé en 1960 par Richard Waters, et dans lequel on met de l'eau avant d'en jouer. Mais encore en plongeant des gongs et autres accessoires de percussion dans le liquide pour en modifier le son. C'est donc sous des formes multiples et originales qu'on trouve l'eau dans cette pièce. Après avoir représenté la nature, comme dans la pièce de Pépin, on se met donc à jouer avec, ici avec de l'eau. Mais rapidement, les compositeurs vont se rendre compte que l'espace de la salle de concert est parfois étriqué si on veut vraiment faire jouer la nature et les éléments extérieurs dans des pièces. Comme on vient de le voir, les compositeurs élargissent rapidement leur vision des objets possibles pour faire de la musique. Mais la réflexion artistique fulgurante du XXe siècle va aussi remettre en question l'endroit où on joue la musique. En effet, les dynamiques parfois expérimentales inhérentes à la musique contemporaine questionnent le fait de jouer cette musique dans les lieux et institutions classiques, dont les codes et la population sont parfois aux antipodes de la recherche en question. Cette démarche va, entre autres, être aidée par l'innovation technologique et la découverte de nouvelles techniques d'enregistrement et de diffusion. C'est de cette manière qu'on va commencer à exporter la musique en dehors des lieux clos, comme le fait Karlheinz Stockhausen dans son surprenant Helicopter String Quartet, dont vous venez d'entendre un extrait. Il s'agit bien ici d'un quatuor à cordes, mais donc chaque musicien joue depuis un hélicoptère. Impossible de vous cacher que la mise en place d'une telle pièce et sa diffusion en font une œuvre dont l'exécution reste assez rare, car elle nécessite pour chaque musicien un hélicoptère et un ingénieur du son qui tourne autour de la salle, mais également de 4 écrans et d'un système de haut-parleurs imposant à l'intérieur de la salle pour la diffusion en direct au public. Dans cette pièce, le public reste donc bien dans la salle de concert, mais les musiciens, eux, jouent depuis l'extérieur. Et tous les sons du dehors, y compris ceux de l'hélicoptère, sont pensés comme partie intégrante de l'œuvre. À partir de 1945, l'évolution des techniques d'enregistrement permet également aux compositeurs d'aller collecter des sons directement depuis l'extérieur pour les mixer et les diffuser ensuite. C'est entre autres ce que propose le premier courant du soundscaping ou paysage sonore, qui vient enregistrer des sons dehors, le field recording, pour ensuite recréer un nouveau paysage en studio. C'est une démarche de collectage où, comme un peintre, le compositeur va puiser ses sons dans la nature pour en faire son tableau. Écoutons un des pionniers de ce courant avec Vancouver Soundscape de Murray Schafer.
Thank you.
La démarche autour du field recording est intéressante et importante sous bien des aspects. Outre la portée musicale que l'ouverture sur les bruits offre, le field recording ou enregistrement de terrain s'inscrit également dans une démarche ethnomusicologique, celle du collectage, de la transmission de la culture par l'oral, l'idée de garder une trace de notre passé. Les ethnomusicologues sont familiers de l'étude des populations par leur musique, et c'est de cette manière que Alan Lomax a longuement œuvré pour le collectage de chants de prisonniers noirs aux États-Unis. Que d'autres partent vivre avec des tribus aux quatre coins du monde pour découvrir leur musique et l'enregistrer, pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Avec Vancouver Soundscape, Schaeffer nous envoie une carte postale de cette ville en 1973. Faute de pouvoir la voir aujourd'hui telle qu'elle était alors, grâce à cette œuvre, on peut encore l'entendre. Pour Schaeffer, c'est un peu le monde qui nous entoure qui devient alors musique. Nous voyons donc que les compositeurs ne manquent pas de ressources pour faire en sorte que la nature reprenne ses droits à l'intérieur des salles de concert. On ne sépare plus la musique de ce qui nous entoure, on les connecte. Dans une démarche peut-être un peu moins extrême, mais tout aussi étonnante, je dois vous parler ici d'une œuvre formidable qui a servi de matériau pour le film Sound of Noise. Cette œuvre, c'est Music for One Apartment and Six Drummers, un court-métrage où six percussionnistes investissent un appartement pour le transformer en lieu de concert. Un concert imprévu, avec une seule représentation et pour tout instrument, uniquement ceux que les musiciens trouvent sur place. Vous avez pu entendre ici un extrait du premier mouvement de ce court-métrage joué depuis une cuisine avec des verres, mixeurs, batteurs et autres portes de placard. Je vous conseille évidemment d'aller voir ce court-métrage disponible en intégralité sur YouTube pour continuer votre visite de cet appartement, mais également de vous pencher sur sa version long-métrage où ce n'est plus un appartement dont ils se servent pour jouer, mais bien la ville entière. Cette démarche permet aussi de repenser l'accès à la musique en la sortant des lieux de concert habituels, mais aussi et surtout en utilisant pour la produire des instruments que nous avons tous chez nous. La musique devient alors accessible à n'importe qui, à n'importe quel moment et sans coûter d'argent. Alors quand on parle du fait que la musique contemporaine est soi-disant inaccessible, ça laisse pensif, particulièrement au regard de ces démarches de simplification d'accès à tous les éléments qui la constituent. À l'écran comme à la scène, les musiciens s'emparent donc de nos lieux de vie pour les colorer de musique et rendre de sympathiques hommages musicaux au son de notre quotidien. C'est ce que se sont amusés à faire les musiciens du Concerthaus Orchester de Berlin en mettant en musique un élément mythique de la vie urbaine allemande. Je vous mets au défi de retrouver lequel. plus germanophiles d'entre vous auront peut-être reconnu le Trabi, cette voiture allemande mythique que les musiciens du Concerthaus Orchester imitent avec leurs archets contre les cordes, des percussions, des feuilles de papier et des effets à la trompette. À l'image du soundscaping de Murray Schafer, c'est un bel hommage de cet orchestre à la musique de notre quotidien. Car c'est aussi ça, l'idée de la musique à l'extérieur, celle de prêter un peu plus attention au monde qui nous entoure.
Musicoscope, sur Radio Campus Angers, 103 FM.
Écouter les bruits qui nous entourent et faire de la musique avec des objets de tous les jours sont des démarches qui cherchent à surprendre, certes, mais aussi à rapprocher la musique et son public, à la penser autrement plus proche de ceux qui l'écoutent. Dans ces deux cas, l'implication du public dans la démarche est relative, car il lui faut toujours aller chercher ses œuvres pour les découvrir. Les artistes se sont donc posé la question de la proximité avec leur public et de comment rendre leur musique la plus accessible possible, tout en restant surprenante et de qualité. C'est ainsi que s'est développé au cours du XXe siècle le principe de performance, et plus particulièrement de happening. Un happening, c'est un peu comme dans Music for One Apartment and Six Drummers, c'est un moment où la musique ou d'autres formes d'art font irruption en pleine rue ou dans des lieux inattendus pour une performance lors d'un temps donné qui s'arrête comme elle est arrivée. Le public, qui sont en fait les passants, n'a donc pas idée qu'une performance va avoir lieu avant qu'elle soit en train de se passer. Les happenings cultivent donc l'art de la surprise et de cueillir sur le vif les réactions d'un public qui ne s'attendait à rien. En voici un exemple avec la chanteuse Johanna Malewski, soliste de l'orchestre de chambre de la Drôme, qui se fond dans le marché de Die pour y interpréter des récitations d'Apergis en agissant et interagissant comme si elle faisait ses courses.
Faut pas vous appeler comme ça. Je peux le demander, toi. Et tu es Femme. Rien qu'à moi, tu l'auras. Femme. C'est mieux. Je veux que... Attends. Honnête. On va vous appeler comme ça.
Autant vous dire qu'entre les étals de légumes, fromages et autres ravioles, les réactions face à cette situation sont éclectiques. Certains prennent peur, d'autres s'en amusent, beaucoup sont interloqués et finissent par devenir curieux de la scène, et donc de la musique en train de se jouer. Le principe de happening est donc une occasion rêvée de faire jouer à l'extérieur de la musique traditionnellement pensée pour les salles de concert. Il laisse la place belle au jeu théâtral et à l'interaction spontanée avec les auditeurs. En plus de cette question relationnelle avec le public, le fait de jouer ses œuvres à l'extérieur nourrit aussi les questions de l'espace de la scène et les réflexions autour de la spatialisation des œuvres, de comment on va les faire sonner dans l'espace public et de comment la musique va pouvoir résonner dans la vie quotidienne, comment on va pouvoir la faire interagir avec les passants qui reçoivent alors la musique sans être allés la chercher. Ces moments peuvent se révéler surprenants à vivre, mais ils permettent à tous d'être au contact les uns des autres, de se rencontrer par surprise et de se découvrir, musiciens comme auditeurs. On exporte donc la musique dans des lieux plus neutres et moins catégorisés comme correspondant à une frange de la population spécifique. Pour finir notre émission d'aujourd'hui, il semble important de vous parler d'une dernière idée musicale en lien avec le grand air, celle de faire jouer la nature par elle-même. Jusqu'à présent, toutes les pièces que nous avons écoutées utilisent des éléments extérieurs ou s'exportent dehors, mais le principal moteur qui alimente cette musique, c'est l'humain. Car si on y pense, la nature n'a pas besoin de nous pour jouer sa musique. Elle joue par et pour elle-même. Ne parle-t-on pas du chant des cigales et des oiseaux, du grondement des vagues, du hurlement ou du murmure du vent dans les feuilles? Tous sont des objets sonores qui sont comme la petite musique de nos vies. Par conséquent, non content de se limiter à faire venir la musique de la nature dans les salles de concert, certains compositeurs et facteurs d'instruments vont aussi exporter des installations musicales à l'extérieur. et faire en sorte que la nature elle-même devienne la musicienne interprète de l'œuvre. C'est le cas de la harpe éolienne, une installation en bois ou en métal sur laquelle on tend des cordes que le vent va faire vibrer. En voici un extrait. Deuxième, issu d'une autre installation. En fonction de l'intensité et de l'orientation du vent, la manière dont les cordes vibrent change du tout au tout, produisant une musique sans cesse différente. Les forces et la vivacité de la nature qui nous entoure deviennent donc les outils et les acteurs d'un étonnant théâtre musical en plein air. Et bien que le principe de la harpe éolienne ne soit pas contemporain en soi, les recherches en matière de facture instrumentale et de placement des instruments ont continué à fasciner et à être explorées jusqu'à nos jours. Les bruits font maintenant partie de notre paysage musical. Il est donc intéressant de chercher les petits bouts de musique autour de nous, dans le crépitement des flammes, les gouttes de pluie sur une fenêtre et le roulis d'un couvercle de métal qui tombe sur le sol. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous conseille de tenter un jour de sortir de chez vous sans musique dans les oreilles, ni être pressé par le temps ou par des pensées trop envahissantes. Et plutôt que de marcher avec la voix de votre tête, de vous connecter à ce qui vous entoure pour capter les voix, les sons, les bruits, le vent, la pluie. Car tout ça cumulé forme une sorte de bande originale de votre quotidien. Et tous ces sons que nous nous évertuons souvent à ignorer sont en fait de précieux rappels de la beauté fragile de ce qui nous entoure. Ces considérations marquent la fin de notre émission, que je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ces quelques ouvertures sur la musique en plein air vous auront donné l'envie de vous laisser porter et emporter par les sons autour de nous, mais aussi de vous intéresser à quel point les musiciens et compositeurs cherchent à s'écarter des carcans classiques en questionnant les lieux, les instruments, les manières de jouer et le contact avec le public. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les précédentes sur le site de Radio Campus Angers avec toutes ses références et un espace dédié aux commentaires si vous souhaitez en laisser un. Merci à Étienne pour son aide à la technique et à Nicolas et Johanna qui m'ont permis d'utiliser les archives de l'Orchestre de Chambre de la Drôme pour le contenu de cet épisode. Nous nous retrouvons quant à nous le lundi 5 février à 16h30 pour un épisode particulier puisque nous y parlerons des liens qui unissent parfois la musique et la mort. En attendant, nous nous quittons avec une nouvelle harpe éolienne, mais cette fois c'est celle de Cowell que nous entendons intégralement jouer au piano. Bonne journée et bonne écoute.
Vous écoutiez Musicoscope. Retrouvez-nous en direct les 1er et 3e lundis du mois à 16h30 sur Radio Campus Angers 103 FM ou en replay sur votre plateforme de podcast préférée.